Vous écoutez Amina Kalash pour l'émission Ça va parler, des infos sans prétention, des chroniques avec passion. C'est notre émission. Aujourd'hui, je reçois deux jeunes hommes au parcours inspirant. Sam Gilassia est le fondateur de Mental de Titan, le premier programme de formation qui repose sur une approche innovante et différente. Il nous expliquera tout cela en détail tout à l'heure. Et Najib Bedani, qui met en avant des anonymes qui impactent la société de façon positive dans son projet Human Nudge, un concentré d'humanité à l'ère de la folie des réseaux sociaux.
Ça va parler, ça va parler.
C'est bon, ça danse, tout ça.
Ouais, c'était hyper rapide, c'est déjà, déjà
ça va trop vite.
Si tu veux, on te fera une mixtape après.
Je veux bien.
C'est vrai?
Je prends, ouais.
Ça va?
Super, et toi?
Ouais, ça va super.
Cool.
On a bien rigolé juste avant, donc c'est pour ça que là...
C'était super, oui. Ouh, bonne ambiance, j'aime beaucoup.
Les backstage, ils étaient rock'n'roll.
Il faut que j'arrive à garder mon calme là. Bon, allez.
Sois sérieux, pas.
Alors, je vous ai dit qu'ils étaient deux jeunes hommes inspirants et pourtant je pourrais qualifier nos invités de psychologues. J'essaye de vous trouver une définition simple sur internet, mais c'est beaucoup trop compliqué à expliquer. Alors pour simplifier, un psychologue est une personne qui réussit à comprendre de façon intuitive les sentiments et les émotions des gens. Et c'est à travers la pratique de la boxe, ses conseils, motivation et son parcours professionnel que Sam accompagne des entrepreneurs, des collaborateurs et des sportifs à être plus performants. Un mental de titan dans un corps de titan, pas besoin de ressembler à Poséidon pour réussir. Non, il suffit de deux choses essentielles, la passion et l'excellence. Et ce n'est pas Najib qui nous dira le contraire. Ce jeune homme originaire de Toulouse est passionné par l'humain. Dans son projet Human Nudge, il rencontre les gens, puisque selon lui, nous ne sommes pas assez à l'écoute des uns des autres. Dans ses vidéos, il propose un show d'authenticité où on aborde des sujets qui parlent à tout le monde, avec tout le monde. Alors, un jour, deux rencontres, un podcast, c'est la Matt Paki et bienvenue dans Ça va parler.
Merci. Super, quelle synthèse, oh, énorme.
Wow. Wow.
J'aime beaucoup.
T'as compris la référence ou pas?
Je me serais pas mieux vendu.
C'est vrai?
Ah, vraiment pas.
Bah, en même temps, moi j'ai juste puisé en fait dans tout ce que j'ai trouvé sur vous.
Je
suis
sûr que tu m'as appris des trucs sur moi, j'étais pas au courant, t'as vu?
Ouais, pourquoi à chaque fois on me dit ça? Ah, je t'ai appris quoi?
Psychologue, tu vois, genre Jason.
Bah oui, c'est de la psychologie ce que vous faites. Hein.
Est-ce que tu cherches du boulot par hasard? Je recrute des commerciaux.
On s'arrangera après.
On en discutera après.
Et du coup, c'est la Matt Paki. Tu connaissais la référence ou pas? Non. C'est la Matt Paki. Tu nous expliques un peu ce que c'est la Matt Paki du coup.
Bonjour en indonésien.
D'accord.
Et t'introduis en fait tes vidéos.
Alors, pendant un an, ouais, j'introduisais mes vidéos comme ça. Parce que le concept, il a démarré en Indonésie. Je ne parlais pas indonésien. J'ai fait 2 mois de stage dans une école où j'enseignais le français. Et au milieu de tous mes collègues, en fait, me parlaient en indonésien. Ils ne me parlaient pas en anglais, tu vois. Ils parlaient encore moins en français. Et donc, à chaque fois, ils avaient Salamat Pagi, Apa Kabar, Najib, tu comprends pas, tu vois. Et du coup, c'est le seul truc qui restait. Du coup, j'ai décidé d'introduire chacune de mes vidéos avec ce bonjour, qui est un bonjour plein de chaleur, plein d'amour, plein de spontanéité et plein d'accueil. Voilà.
C'est beau.
Bah, je connaissais pas, moi, ouais, la version indonésienne. Je connais la version thaïlandaise qui dit Sawadeekap.
Ah d'accord,
mais ouais, je ne connaissais pas la version indonésienne.
Bah, du coup, on va apprendre plein de mots là, ah, voilà. C'est génial.
Je dormirai moins bête.
C'est énorme.
Sawadeekap. Sawadeekap.
Sawadeekap.
Sawadeekap.
D'accord, Sawadeekap.
Sawadeekap. C'est ça?
Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, j'aime bien, accentuer bien sur Sawadeekap.
Ah, comme les indonésiens. Salamat pagi.
Midi, c'est aussi Salamat datang. C'est au revoir, ça, non?
C'est bienvenue.
Bienvenue?
Ouais.
Ok.
En fait, ils ont 5 manières de saluer.
C'est ça, ouais.
Il y en a une pour le matin, une pour à midi, une pour. Ouais, et à chaque fois, c'est salamat quelque chose.
Ouais, parce que moi, à chaque fois, on me disait quand j'étais partie plusieurs bonjours. Je fais frère, une seule, ça s'appelait.
Choisis, quoi, pas un choix.
Parce que bon, bonjour, bonsoir, c'est facile. Mais va apprendre, ouais, comme tu dis, 5 façons de dire bonjour. Et du coup, tu commences comment tes vlogs?
Maintenant, je les commence plus par une intro. Pourquoi? Parce que. Je pense que moi, mon objectif à travers les vidéos, à travers les vlogs, c'est d'impacter les gens à travers des vidéos courtes, le plus court possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on est sur nos téléphones, on scroll,
ouais.
On fait défiler l'écran. Donc, il n'y a plus le temps pour Salamat Pagui aujourd'hui, tu vois. Il n'y a plus le temps pour dire bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Non, on a 3 secondes pour amener quelqu'un dans une conversation. Donc, depuis 1 an maintenant, le format que j'ai choisi, c'est de projeter à travers une vidéo courte de 3 minutes l'auditeur sur un format dans lequel il se retrouve face à quelqu'un qui lui parle de quelque chose, mais les gens ne savent pas où a commencé la conversation, ne savent pas le contexte de la conversation, juste, ils débarquent dedans. Et donc j'ai fait le choix de ne plus avoir d'introduction. Voilà, c'est directement, on est dans la conversation, dans l'essentiel.
Ouais. Et du coup, tu as commencé tes vlogs quand ? Enfin, c'est après ton retour d'Indonésie pour contextualiser pour les gens.
En fait, ça faisait 15-16 ans, depuis 2006 que je fais de la vidéo. Et mes tout premiers vlogs, c'était mes vacances d'été. Avec
ouais,
ma
au bled.
Famille. Ouais, exactement. En Algérie, je mettais en scène ma famille, tu vois, genre, je filmais. Et à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Donc, on filmait vraiment pour le plaisir de partager un moment avec sa famille. Et j'ai repris ça plusieurs années après, lors de ma dernière année d'études que j'ai fait dans l'enseignement du français langue étrangère. Et je suis parti 2 mois en Indonésie et j'avais galéré, moi, à trouver ce stage. Donc, je me suis dit, vu que j'ai galéré à trouver ce stage, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer tous les jours et je vais publier des vidéos sur les réseaux sociaux tous les jours de manière, en fait, à expliquer aux gens comment se rendre en Indonésie pour faire la même chose. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vlogger, à rencontrer des gens et à me laisser prendre par cette dynamique de filmer au quotidien, ouais, et de diffuser au quotidien.
Mais de base, ton stage, ça devait être en Europe. Comment tu t'es retrouvé en Indonésie?
T'es très bien renseigné.
Ah, c'est ouais, des sacrées infos.
Ouais. Ouais. En fait, normalement, ça devait être en Europe, effectivement. Et moi, je me suis retrouvé en Indonésie. Pourquoi? Parce que j'ai postulé partout. Même en Algérie, pour te dire. Tu vois, j'ai postulé en Algérie et je trouvais pas.
C'est dire le désespoir.
Ouais. J'étais vraiment au bout de ma life. Et il s'avère que je commence à postuler, mais au hasard, comme ça, en Malaisie. Et je me suis souvenu. Tu sais, des fois, on se souvient de trucs comme ça, mais tu sais pas pourquoi. Alors, c'est hyper bizarre. Je me suis souvenu qu'il y a 2 ans, j'avais rajouté quelqu'un sur Facebook en ami, avec qui j'avais jamais parlé depuis 2 ans, et qu'un jour, cette personne a posté une photo avec un monsieur qui ressemblait à un Malaisien. Alors, juste pour cette raison, tu vois, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, je sais que c'est hyper bizarre, mais on s'est pas parlé depuis 2 ans, mais je voulais juste savoir... Est-ce que c'est quoi ton rapport avec la Malaisie? Parce que je suis en train de postuler là-bas. Elle m'a dit, tu postules pour quoi? Je lui ai dit, je cherche un stage dans l'enseignement du français. Ben, elle me dit, moi j'étais en stage dans une école et recherche des stagiaires.
J'ai dit, ah ouais.
Waouh, d'accord. Elle me dit, est-ce que tu veux que j'envoie un message au directeur? Moi, ça faisait 3 mois que je cherchais mon stage.
Ouais.
Je lui ai dit, oui, oui.
S'il vous plaît.
S'il vous plaît. Et elle le fait. 2 semaines après, j'avais mon stage et mon appartement. Donc, fait, je me suis dit, grâce aux réseaux sociaux,
non, mais c'est, ouais, c'est magique,
tu peux
parfois
faire des trucs de fou. Et donc, grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu trouver une solution à une problématique qui était liée à mes études universitaires. Donc, c'est également pour ça que j'ai décidé de conserver, de maintenir ce lien. Je me suis dit, OK, moi, c'est les réseaux sociaux qui m'ont permis d'aller au bout de mes études. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repartager sur les réseaux sociaux ce que je vis de manière à permettre à d'autres personnes qui sont dans leurs études d'aller au bout.
C'est génial.
Lourd.
Ouais, franchement, c'est encore mieux que LinkedIn.
Mais clairement.
Non, mais c'est vrai.
Ça va
mais
trop ouais vite.
Ah ouais. Tu peux faire plein de choses. Et les gens ne se rendent pas compte. Souvent, quand on parle de réseaux sociaux, tu sais, on va parler des côtés négatifs. Genre,
parce qu'on a quand même pas mal.
Il y en a pas mal.
Il y en a pas mal. Mais c'est vrai que le négatif, ces derniers temps, a primé en fait, sur l'aspect positif. Et on oublie que c'est un lieu, enfin oui, c'est une sorte de lieu, entre guillemets, où on a la possibilité de rencontrer de très très belles personnes. Mmh. Bah, moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Hein, donc,
Tu vois, y a aujourd'hui, on les utilise pour faire de... pour entrer en contact avec des personnes qui seraient... Mais s'il n'y avait pas ça, comment on serait découvert,
ouais,
tu vois?
Bah, on... Ouais.
Le Minitel peut-être.
Hein?
Le Minitel peut-être.
Je sais pas, ou dans la rue, tu vois, t'avances, tu connais pas les gens. Hé,
hey, toi, je te veux en émission, viens. Ok.
Mais je suis chelou, cette meuf.
C'est vrai que les codes sont complètement différents sur les réseaux sociaux, parce que pour le coup, aborder quelqu'un comme elle a pu le faire avec toi, c'est beaucoup plus naturel sur les réseaux sociaux que ouais. dans la rue. Tu vois, hé, hey, toi, t'as une belle gueule, viens, on fait un podcast. Sinon, bonjour.
Mais il y a quelques années, même ça, ça se faisait pas trop. Tu vois, non, quelqu'un t'ajoutait ou quelqu'un te suit sur des réseaux sociaux que tu ne connais pas. Le premier message que t'envoies, c'est t'es qui
ouais. Non, mais c'est oui, oui. Ouais, t'es qui. Et souvent, la personne qui t'ajoute te demande t'es qui.
Ouais.
Mais c'est toi qui m'as ajouté en fait.
Ouais,
qui je suis
Toi d'abord, tu vois.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors que maintenant, tu laisses même ton profil en public. Mmh. Les gens peuvent. Regarder ou surveiller, ça dépend voilà, de si t'es la team cafard ou t'es la team bienveillance. Regarder ton contenu, reposter et tout. Alors qu'avant, c'est vrai, tu faisais beaucoup plus, enfin, tu faisais plus attention aux gens qui te suivaient ou avec qui tu parlais.
Il y a 3 ans, on était encore dans cette phase là où on se posait cette question. Moi, quand j'étais en Indonésie,
ouais.
je faisais face à des inconnus que je rencontrais dans le train, dans le métro. Et les gens, tu sais, ils échangent juste avec toi 2 secondes et disent c'est quoi ton numéro WhatsApp, tu vois, fille ou garçon, tu vois, mais c'est pas dans l'optique de faire quoi que ce soit, c'est juste par curiosité pour pouvoir échanger avec quelqu'un.
Beaucoup plus facile.
Là, on se retrouve en train de manger quelque part, directement une photo, on se connaît pas, pourquoi ? Mais non, c'est normal. Et donc quand je suis revenu en France. Après avoir vécu moi pendant 2 mois dans ce contexte-là, là où on prenait des photos, on prenait des vidéos dans des écoles. Dans des écoles, je rentrais avec ma caméra et je filmais librement. Il n'y avait pas de droit à l'image, de quoi que ce soit.
Ouais, on ne t'embêtait pas, quoi,
non,
avec ça. Ouais.
C'est quoi, tu veux faire quoi? Je suis prof de français. Ah, ben bah, d'accord, bah, t'as ta place. Fais ce que tu veux, on te fait confiance. Mmh. Et cette question de confiance, quand je suis revenu en France, je n'arrivais plus à la mettre de côté. Tu vois, je vais continuer de vivre avec ça. Je vais faire confiance aux gens, même si je ne les connais pas. Je vais aller à leur rencontre et on va voir.
Ouais, du coup, tu as pris la confiance avec tout le monde.
je sais pas si parce que moi en plus c'est vrai, je suis hyper timide donc ouais. Je vais pas dire j'ai pris la confiance avec tout le monde, mais en tout cas je l'ai pris un peu plus avec moi-même déjà.
Traduction, c'est qu'il a pris avec tout le monde.
complètement.
Ah non, franchement non.
Mais du coup avant cet épisode là il y a eu un épisode au collège avec un journal télévisé aussi.
Ouais.
Ouais, mais je suis Colombo, toi aussi, j'ai des trucs sur toi, t'inquiète. Parce que Sam, il me regarde comme
je commence à m'inquiéter sur ce qu'il va sortir.
Je commence à flipper, je te jure.
Parce que si elle remonte au collège, ça va être salé.
Waouh. Le collège. Ouais. Le collège, bah, j'avais dit que j'avais commencé à vlogger mes vacances d'été. Et c'est vrai que je l'ai fait l'année où on a une prof de français. Qui nous a fait découvrir le film de Matrix en classe. Vous l'avez regardé ? Je sais pas si.
Classe.
Génial. Ouais.
Mais c'était énorme. Surtout que moi avec mes parents j'étais habitué à des séries télé, tu sais les Mousselsen, les feuilletons arabes. Vous avez connu.
Sans queue ni tête en plus.
Ouais.
Sans queue ni tête. C'est tu regardes ça tu dis mais.
Mais
et en
pourquoi
plus, tu sais les slow motion, les trucs, les effets spéciaux, là, tu fais. Ouais, ok.
C'est les petits jingles derrière pour les scènes mélodrames.
Et ça bug à chaque fois.
Les feuilletons dans le générique, tout le monde tourne la tête comme ça, genre comme ça, hop.
C'est l'effet de l'amour version arabe. C'est ça.
Mais d'ailleurs, dans ces trucs, il y avait. Moi, genre, mes parents, je pense, comme beaucoup de parents, ils voulaient nous préserver de ce qui pouvait se passer à la télé. Et moi, j'étais hyper choqué par ces feuilletons. Je ne sais pas si vous avez connu Chefika.
Si, je l'ai vu.
Toi,
moi,
t'as connu,
j'ai connu. Moi, j'ai connu.
C'est choquant.
C'est choquant, ouais.
C'est choquant, tu sais. C'est une histoire de violence conjugale.
Ah ouais.
Le mec, il crame des cigarettes sur le bras de sa femme. Je m'en souviens encore,
ouais,
tu vois.
Ouais, c'est vrai qu'il était violent, ce film-là.
C'était violent.
Ouais.
Quels sont vos hobbies dans la vie, sinon?
Il y avait des sets hyper choquants, donc tu regardes Matrix, après t'es détendu, tu vois. Netflix.
Tu t'es forgé un mental de titan avant même de...
Et donc cette année où elle nous fait découvrir le film de Matrix, Révélation, tu vois, je me dis, waouh, en fait avec la caméra, avec le cinéma, on peut faire passer un message extrêmement fort, extrêmement profond, et tout en apportant du divertissement. Donc, impacter les gens avec du divertissement. Une semaine après nous avoir fait découvrir le film de Matrix, elle nous demande de faire un travail sur le DVD de notre choix. Et moi, j'avais choisi le premier DVD de ma vie que j'avais acheté. Je l'ai regardé 50 fois. C'était le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Et la particularité du Seigneur des Anneaux, c'est que Peter Jackson, le réalisateur, il te met un DVD avec le film et il te met un DVD avec comment faire le film. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, vous.
Ah, non.
Bah, en fait, lui, c'est l'un des réalisateurs qui accorde énormément d'importance au making-of. Et donc, il t'explique toutes les coulisses, quoi. Comment on fait des perruques, comment on fait des figurines, comment on écrit un scénario, comment on fait tout ça. Et donc moi, à ce moment-là, je me dis que c'est ce que je veux faire dans ma vie. Après, dès que j'ai éteint la télé, j'ai dit à mes parents, ils m'ont dit non, tu vois, ça va pas être possible. Mais moi, je les garde en tête et je me suis dit, ok, je peux pas vivre, je peux pas en faire mon métier, mais je vais en faire mes vacances. Et donc, ce qui aurait dû peut-être être une profession, j'en ai fait un loisir.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que j'ai gardé pendant 16 ans. Parce que je ne l'ai jamais vécu comme un travail. Je l'ai vécu comme un loisir.
Ouais, parce que c'est aussi un peu une passion.
C'est carrément une passion. Mais après, moi, je déteste filmer. Je vais à la rencontre des gens avec une caméra, mais je déteste filmer. Ce qui me passionne, c'est la rencontre avec les gens.
Donc, en fait, si tu avais quelqu'un qui tenait la caméra, ce serait mieux.
Ouais.
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 Donc, voilà, un appel lancé. Tous ceux qui veulent tenir la caméra.
Je recherche quelqu'un pour un poste non rémunéré à 48 heures par jour. Ça commence à 4 heures du matin, ça termine à 6 heures le lendemain.
Bienvenue en France.
Voilà.
Et on précise, il y a beaucoup d'authenticité, de bienveillance et ce n'est pas rémunéré. Mais ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas toujours les travails qui sont rémunérés qui sont les meilleurs. Hein.
Bien sûr.
Franchement.
Le tout dans le respect des conventions de travail.
Voilà, bien sûr, bien évidemment.
Oh, c'était pas très une super idée de m'appeler.
Et donc, tu dis, t'as appris à dire oui à tout.
En Indonésie, ouais.
Ouais.
En Indonésie, ouais. Parce que quand je suis parti là-bas, c'était la première fois que je partais aussi loin dans ma vie, géographiquement. En fait, je me suis dit, je pars là-bas, j'y reste 2 mois, j'aurai peut-être plus jamais l'occasion d'y retourner. Donc en fait, j'ai 2 mois et demi pour vivre. Moi, c'est ce que je me suis dit dans ma tête, tu vois. Je me suis dit, dans 2 mois et demi...
C'est la fin de ta vie.
C'est la fin de ma vie.
Ah ouais.
Et en fait,
c'est ce retour en France, quoi.
Ouais. En fait, effectivement, tu vois, c'est la fin d'une vie.
Ouais.
D'une vie là-bas. Et donc, je me dis, voilà, bah, si j'avais 2 mois et demi pour vivre, qu'est-ce que je ferais? Bah, la première chose que je ferais, c'est que je ne resterais pas chez moi. Je sortirais. Et donc, je sortirais pour faire quoi? Ben, pour aller à la rencontre des gens qu'il y a autour de moi. Et donc, effectivement, c'était un stage. Donc, les Indonésiens, ils sont plein d'engouement, plein de joie, plein de positivité. Donc, ils disent, viens, on va faire ça. Mais j'ai dit, mais ça, c'est dimanche à 5 heures du matin. Elle fait, yes, no problem. Et ils disent, tida à papa, ça veut dire pas de problème.
D'accord.
Un peu comme Hakuna Matata, mais version indonésienne.
Ah, c'est pas mal, tida à papa.
Tida à papa. Je dis, oui, tida à papa. c'est pas toi qui viens, c'est pas toi qui viens me réveiller le dimanche, quoi, tu vois. Et je me suis retrouvé, tu vois, pendant 2 mois, constamment à avoir mon cerveau de ma vie d'avant, de français, de me dire, non. Non, c'est
ouais.
Après, ok, bon, c'est peut-être la seule et unique fois que ça va arriver. Donc, ok, je vais dire oui. Et en l'espace de 2 mois, je me suis retrouvé, je commençais tout timidement avec ma caméra dans ma chambre en train de me filmer, en train de dire, ouais, il y a des cafards, l'eau elle coupe,
ce genre de trucs. Il y a des cafards là-bas.
Ouais, mais après ça devient la famille au bout de 2 mois.
Ouais, mais ils sont balèzes.
Ils sont énormes.
Le soir, c'est. Ils sortent, tu sais pas d'où. Ils sont énormes.
Première The fois Walking Dead.
Ah non, mais j'ai vu ça en Malaisie, en Indonésie, mais ceux en Indonésie, ils sont spectaculaires.
Mais ils sont affectueux au bout d'un moment. Hein. T'as l'impression limite d'être chez eux, tu vois. C'est pas toi qui es chez eux.
Oui, tu es chez eux. Ouais. Mais moi, j'ai pas d'affection pour les cafards. Tout le reste, franchement, pas de problème. Mais le cafard, ah, je peux pas. Ah, je peux pas.
Je pense qu'il faut que tu fasses un stage de 2 mois dans l'enseignement du français. Et ça va t'apprendre à vivre avec les cafards.
C'est pas ça, c'est que je te jure qu'ils sont comme ça.
Ah oui, ils sont énormes.
Ils sont, Bref.
Et bah en fait, bah voilà, tu vois, t'apprends même à dire oui à des cafards, en fait. Tu vois, c'est ça le truc. C'est le fait de, comment dire, de dire oui quand il te reste 2 mois et demi à vivre. Bah en fait, tu te rends compte que le cafard, ça fait partie du charme de là où tu vis. Parce que dans la vie d'avant, il n'y avait pas de cafard. Même, je me suis retrouvé... moi, j'ai toujours été... j'aime bien chez moi. Moi, je pense comme beaucoup de gens. Ouais, j'aime bien chez moi. Et chez moi, j'aime bien être tranquille. Et là, il faisait tellement chaud que j'étais obligé d'aller dans les espaces communs pour pouvoir travailler dans l'endroit où je vivais. C'était une sorte de résidence étudiante. Et comme il n'y a pas beaucoup d'intimité en Indonésie, ben, je me retrouvais à travailler à 23h sur mon ordinateur. Et il y avait le gardien qui arrivait et qui se mettait juste à côté de moi. Il regardait l'écran comme ça. Et ouais, j'étais là. Je peux pas le dire. La soirée mémorable, c'était, j'étais là sur mon ordinateur et il y avait des gens de Papouasie qui c'était mes voisins. Il y en a un qui arrive, il se met à gauche, mais il me colle. Mais vraiment, il fait hyper chaud. Et je suis sur un canapé avec des cafards qui sont en bas et derrière. Et il me colle sur ma gauche. Il y a son ami, il me colle sur de l'autre côté. Et je suis là entre deux mecs de Papouasie sur mon montage. Et il me dit « Homme ». J'ai l'impression d'être dans un film, tu vois. Je dis « Homme ». Ta maison, c'est ça, mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux montrer ta maison, ça te manque chez toi, je sais pas. Il me dit, comme ça, il montre du doigt l'ordinateur. Il me dit, oh. Je fais, ok, vas-y, montre-moi ta maison, ce que tu veux montrer. Et il montre sa maison. Et c'était pas ça qu'il voulait me montrer spécifiquement. Et du coup, il cherche, mais il n'arrivait pas à utiliser le clavier. Et moi, j'étais en retard sur mon montage vidéo, j'avais envie de lui expliquer, mais je ne pouvais pas expliquer. Et bah, t'apprends à dire oui, en fait, tu vois. T'apprends à dire oui. Ok, d'accord. Donc, la situation, elle est comme ça. Je n'ai pas le contrôle dessus. Mais en fait, elle m'apprend quelque chose d'énorme. Elle m'apprend à écouter. Elle m'apprend à patienter. Et elle m'apprend à accepter ces choses nouvelles qui rentrent dans notre vie, pour lesquelles on n'a pas le contrôle. Et donc, à partir de là, quelque chose qui est une situation un peu malaisante, t'en fais un excellent souvenir.
Et je me permets de rebondir là-dessus, c'est super important ce que tu dis, parce qu'au final, de gré ou de force, ça t'a appris à lâcher prise. Mm. Et juste à accepter, en fait, bon voilà, tu peux pas avoir le contrôle sur tout, tu peux pas, donc ok, tu lâches prise et tu composes avec les cartes que t'as dans ta main, ou à côté de toi.
Exactement, ouais. Et c'est, je pense, le voyage, mais vous aussi, vous avez dû l'expérimenter. Ouais. Quand tu voyages, tu fais face à des situations comme ça qui te pousse à lâcher prise.
Ouais.
Ça t'amène à un bonheur que tu ne vis pas dans le quotidien, parce qu'au quotidien, tu t'es attaché. Ouais. T'es attaché à chez toi, t'es attaché à tes habitudes, t'es attaché à tous ces éléments-là.
Et justement, avec ton programme, on lâche prise, c'est ça?
Bah ouais, c'est le but.
Tu peux nous en dire plus un peu?
Alors, Mental de Titan, je te dirais, quelque part, c'est une forme de promesse. Tout est dit dans le titre. L'idée, c'est vraiment de travailler sur soi, d'apprendre quelque part à se connaître profondément, aussi bien du côté positif que du côté négatif, parce qu'on en a tous quelque part, et c'est important d'en avoir conscience. Et partant de ce principe-là, l'idée, c'est de performer et de se pousser vers l'excellence, tout en étant bienveillant avec soi. Pour faire simple, je m'inspire en fait de la préparation mentale des sportifs. Qu'est-ce que ça veut dire? On a souvent 3 axes. Dans une préparation de compétition. Donc moi, je suis coach entraîneur de boxe. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et on a là, donc,
artisan de la réussite.
Ouais, c'est...
C'est magnifique.
Bah, en fait, c'est une formule que m'a sorti un jour un de mes boxeurs. À la sortie d'un combat, il m'a dit « Sam, t'es un artisan de la réussite ». Et ça m'a beaucoup touché, donc je l'ai gardé. Donc on a la partie technique, on a la partie physique, mais on a aussi une partie qui est souvent négligée, c'est la partie mentale. Quel que soit le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui demande énormément de personnellement, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements, etc. Et une énorme pression. Si on réduit la boxe, pour le coup je parle de la boxe parce que ça fait pas mal de temps que je suis dedans, c'est en fait pendant 2 mois,
Parce que tu t'entraînes en fait aussi depuis 9 ans.
C'est
de
ça.
8 ans à 60. Je l'ai noté, 63
ans.
Ouais, il
y a de tout. Maintenant, c'est même.
Même plus.
Ouais, là, ça va vraiment de. On commence à 6 ans. On a une journée du samedi, on brasse 200 gamins. C'est une usine le truc, mais c'est un kiff. Franchement, travailler avec les enfants, c'est un vrai kiff. Et en fait, d'un point de vue. Là, je veux vraiment parler de la partie compétition. Si tu réduis le truc, c'est en fait pendant un mois ou deux mois, tu vas te préparer pour combattre face à un mec que tu connais pas, sauf que lui-même, il a été préparé pour te faire la peau. Si vraiment tu réduis le truc au maximum. Et donc en fait, quelque part, de manière consciente ou pas, c'est hyper prenant, traumatisant. Et c'est ça en fait ce qui fait vraiment la beauté de la boxe, c'est que c'est quelque chose qui te reconnecte avec qui tu es profondément. Tu peux pas mentir sur le ring. Il n'y a pas de bluff, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien en fait. Et en fait, tu te retrouves vraiment livré à toi-même. Et il y a une vraie relation entre la pratique de ce sport et des émotions. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai commencé à m'intéresser à toute cette partie mentale. Donc en gros, mental de titan, c'est je m'inspire de toute cette expérience de préparation mentale que j'ai pu avoir. Et je la transfère sur toute la partie business, entrepreneuriat, pour permettre aux gens d'être mieux et plus performants dans ce qu'ils font.
Donc c'est forcément lié à quelqu'un qui a un projet dans le domaine du leadership ou de l'entrepreneuriat ou pas forcément ?
Pas forcément. Si tu veux, c'est je peux pas m'adresser à tout le monde, mais en fait, c'est quelque chose qui peut correspondre à tout le monde. Pourquoi ? Parce que quelque part, on a tous un projet, peu importe qu'il soit entrepreneurial, ça peut être dans une carrière, ça peut être dans un projet comme le tien, ça peut juste être à titre personnel. Je pense qu'on a tous besoin de ça et c'est quelque chose qu'on a beaucoup négligé parce que quelque part, quand tu regardes bien, on passe au minimum 15 ans à l'école, on nous apprend plein de choses, du français, des maths, de l'histoire, mais on nous a jamais appris la passion, la confiance en soi, la motivation, qui sont en fait des socles dans notre vie. Et quand tu regardes bien, bah pendant 15 ans, on te donne du savoir, alors qu'en fait, toute ta vie, tu vas être jugé sur ton savoir-être ou ton savoir-faire. Et quelque part, il y a une vraie...
On ne t'aide pas à développer, en fait, quitter pour pouvoir justement utiliser ton savoir. Et,
pas du tout. On t'apprend à rentrer dans une case. On te dit, écoute, voilà, assis-toi là. Ou assis-toi à côté de lui.
Bonjour.
Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et pour le coup, moi, j'ai un peu toute ma vie été out of the box. Et là, je me suis dit, mais ouais, en fait, il y a quelque chose à faire.
Et ce n'est pas uniquement avec la boxe.
Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas du tout besoin d'être sportif, pas du tout besoin d'être un athlète de haut niveau ou d'avoir une appétence pour le sport.
Et est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait 62 km de l'aéroport de Kuala Lumpour ou pas ?
Ça peut aider.
Moi qui adore marcher, très sincèrement, je suis capable de marcher 10 heures dans une journée.
Ouais.
Mais faire 15 heures de marche dans une journée, bah, tu vois, la personne qui est assise à côté de toi, elle a fait.
Ouais, propre.
C'est ouf, hein?
Du coup, il a le mental et les jambes de titan. Ouais.
C'est Poséidon, quoi.
Mais complètement.
Waouh, c'est magnifique. Ça, c'est... Je vais avoir encore plus la confiance en moi que j'avais au début.
Bah, c'est le but, c'est trop bien. Ouais.
Super, c'est que ça marche ton programme.
Je suis
chaud.
Non, c'est bon, après, il rentre à Toulouse tout seul, quoi.
À pied, c'est bon, c'est fini. Je prends plus l'avion, je prends à chaque fois à pied.
C'est puis, c'est bio, quelque part.
Eco-friendly.
Je
sais pas si c'est friendly vis-à-vis de toi-même quand tu fais ça.
Non, voilà, blague mise à part, si tu veux, la confiance, c'est toujours quelque chose qu'on développe en fait et qu'on apprend sur le tas au fil de nos épreuves, au fil de la vie, tout simplement. Et en fait, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas on est avec, on l'a, on l'a pas. C'est pas je suis bon ou je suis mauvais. En fait, c'est des choses qui se travaillent. Ouais. Pourvu qu'on prenne le temps de se pencher dessus et d'avoir quelqu'un qui nous accompagne pour ça.
Et tu lances des défis chaque semaine.
Complètement.
Et celui de cette semaine, c'est de planifier chaque journée de la semaine, la veille au soir.
Ouais.
Bon, moi, je le faisais quasiment déjà, tu vois, mais c'est bien, parfois on oublie. Donc ça nous aide. Tu le fais, toi ? Tu planifies ou non, c'est au feeling ?
Moi, je peux pas. Avec ce que je fais, je peux pas.
Ouais.
Parce que ce que je fais, c'est basé sur l'humain. Mmh. Et l'humain, il est hyper aléatoire.
Tellement.
Donc, tu fixes une rencontre, la personne, elle arrive en retard ou elle arrive pas.
On t'a déjà planté ?
Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé. Dernièrement, j'avais pris le RERD jusqu'à je sais pas où. Et la personne, j'étais arrivé 2 heures en avance en plus, parce que c'était tellement loin que ouais. Je voulais pas. Et donc je l'ai prévenu 2 heures à l'avance, comme quoi j'étais là. Elle m'a prévenu une demi-heure après le rendez-vous qu'elle n'était pas là. Donc ouais, ça fait partie du jeu. Par contre, du coup, j'ai parlé avec quelqu'un d'autre. J'ai pas pu le filmer, mais et en fait, ouais, on est obligé de. Et ça, tu vois, par rapport justement à la comment dire, à la. Moi, pendant 25 ans, toutes mes journées, elles se ressemblaient en fait. J'avais la même routine. J'ai vécu 25 ans à Toulouse. J'avais mes activités associatives. J'avais mon travail, on parlait de mes études, et ce voyage en Indonésie, mais il a tout cassé. Il m'a permis de me rendre compte en fait que la vie, elle est beaucoup plus intense quand justement, ok, tu planifies un certain nombre de choses, on en parlait, tu vois, tu prévois pour le mois à venir, mais tu laisses la place pour la nouveauté d'entrer dans ta vie, tu la laisses entrer dans ta vie.
Complètement. Alors, pour reprendre un peu l'histoire des défis, donc ouais, effectivement, je balance des défis chaque semaine sur différents thèmes. On va aborder différentes choses et je te dirais, le tout dans un but profond, en fait, c'est juste de pousser les gens à sortir de leur zone de confort. C'est, tu vois, justement, ce truc où tu disais, mais en fait, j'étais bien chez moi, j'aimais bien chez moi. Et ben, en fait, t'es sorti de ta zone de confort, t'es parti de l'autre côté du monde, etc. Et c'est quelque chose qu'on fait trop peu, je trouve. Et alors... L'idée, c'est vraiment de travailler sur différentes choses, nos habitudes, la pratique sportive, l'alimentation, toutes ces choses-là.
Se lever tôt, aller faire des footings super tôt.
Non, bon, moi, je suis un peu barjot sur les bords, mais...
aller courir à 4-5 heures du matin.
Ouais, après, je suis...
En fait, il n'y a que des barjots ici. Hein.
Ouais, un peu,
c'est
ouais.
C'est une émission de barjots.
Bonjour. Ouais.
Waouh. Wow. Non, faut les faire célomètre paguille.
Donc voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pousser en fait les gens à sortir de leur zone de confort, parce qu'au final, dès qu'on sort de notre zone de confort, on apprend mais tellement de choses sur nous, sur la vie, sur typiquement, tu vois, tu parles et on sent que t'es passionné par ce que tu fais, avec une expérience vraiment profonde quelque part de l'humain, parce que t'as fait plein de rencontres, et c'est des choses que t'aurais pas pu vivre si t'étais juste resté, comme tu disais, dans tes 25 ans, dans ton quotidien. Et en fait, c'est aussi ça. L'idée de sortir de sa zone de confort, c'est de se dire que bah, là, je suis bien, je suis au chaud dans ce que je fais, mais je ne sais pas ce qui se passe juste à côté. Et le fait de toujours mettre un pied, bah, tu te rends compte que ta zone s'élargit. C'est comme ça que tu te portes vers l'excellence.
Tu vois, cette réflexion, elle me fait penser à un commentaire que j'ai lu quand j'étais en retard. Et, et la personne, elle disait, comment dire. Est-ce que des fois, j'avais pris une photo, enfin on m'avait pris en photo devant un panneau au Liban où il y avait écrit frontière syrienne à 35 km. Et la personne, elle dit, mais t'as pas peur en fait quand tu fais ce que tu fais? En fait, je dis, mais à chaque fois j'ai peur. À chaque fois j'ai peur. Mais j'ai inversé mon paradigme. C'est-à-dire que maintenant, je sais que quand j'ai peur, c'est là que je dois aller. Parce que si je dépasse cette peur, c'est derrière que se trouve mon bonheur. Donc si je m'arrête à cette peur qui est au premier plan, je fais rien.
Complètement.
Mais comme beaucoup de gens, en fait, ils n'ont pas ce truc de se challenger et de partir au-delà de cette peur. Et en même temps, c'est un peu compréhensible parce que chez beaucoup, ça les tétanise. Ils disent, mais attends, est-ce que je vais réussir ou pas? Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, que les échecs, ça forge et que justement, en fait, tu réussis grâce à tes échecs. Mais parce qu'en France, je trouve que c'est un gros mot, l'échec.
Complètement.
Puis même quand tu grandis, moi, j'ai grandi, on m'a toujours dit c'est pas bien d'échouer, l'échec. Et puis en fait, tu te rends juste compte que l'échec, c'est génial. C'est génial parce que tu te ramasses, mais après, ça te donne une motivation, une pêche de fou. Et tu recommences, c'est mille fois mieux. Quelqu'un qui n'a pas connu l'échec, pour moi, il n'a pas réussi, en fait. Et toutes les personnes qui ont réussi, c'est elles qui ont connu des échecs.
Complètement. En fait, quand tu dis c'est un gros mot, c'est même pire, c'est un tabou.
Ouais.
L'échec, en fait, c'est quelque chose à... Enfin, c'est quelque chose qu'on proscrit en France parce qu'en fait, depuis qu'on est petit, on nous pointe du doigt dès qu'on échoue. Et en fait, on a été forgé comme ça. Donc, c'est normal qu'arrivé à un certain âge, quand tu as suivi un schéma toute ta vie, c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose vers lequel tu te tournes naturellement. Alors que typiquement, dans la culture anglo-saxonne, bah, l'échec, c'est beaucoup plus...
Ils en parlent plus facilement aussi.
Complètement. Tu vois, c'est beaucoup plus libéré, en fait. On échoue, OK. Tu sais, tu regardes les Américains, tu peux parler des millionnaires, des milliardaires, ils te disent tous, ouais, j'ai échoué. Et tout le monde les adule, tu vois.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose de complètement normal. Et je te rejoins complètement, c'est quelque chose qui nous forge. Donc, c'est pas... On doit pas le chercher, mais quelque part, on doit pas le fuir non plus.
Voilà, c'est
on
ça.
Doit juste l'accepter.
Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de bah de changer de enfin, j'allais dire de profession. Ouais, c'est ça, de changer, de dire je vais monter mon projet, je vais être un artisan de la réussite, parce que du coup, tu t'es aussi mis un peu comment dire ouais face à tes peurs.
Complètement. Complètement, si tu veux, c'est comment ça arrivait. Alors, c'est le fruit d'un long processus, mais je suis quelqu'un qui n'était pas destiné à réussir, dans le sens où, selon les standards qu'on me fixait à l'époque, plutôt perturbateur, pour ne pas dire autre chose, pas forcément très bon élève, etc. Mais pourtant, j'avais quelque chose. Si tu veux, j'ai jamais été c'était pas moi le plus fort, c'était pas moi le plus costaud, etc. Par contre, j'ai souvent fait partie des plus déterminés. Si tu veux, mes parents à l'époque, ils me disaient « ouais, t'es têtu ». Juste, ils me disaient « t'es têtu », mais en fait, ils ne cherchaient pas ce qu'il y avait derrière. Et je suis parti, en fait, justement, en me challengeant constamment, je suis parti de quelqu'un qui n'est pas forcément destiné à réussir à quelqu'un qui a une carrière qui, entre guillemets, est enviable pour beaucoup. Mais en fait, si tu veux, je me suis fixé un objectif très haut. Et quand je suis arrivé à travailler pour des grandes directions commerciales, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, même si c'était l'objectif que je m'étais fixé, je n'étais pas dans mon élément. Je ne me reconnaissais pas, que ce soit dans les valeurs, dans le challenge, ce truc, etc. Alors que tu sais, j'avais des équipes, j'avais des grosses responsabilités, on parlait de beaucoup d'argent, mais ça ne me correspondait pas. Et des fois aussi, la vie, elle te met des claques qui te permettent un peu de te remettre en question. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, allez, c'est parti pour un tour.
Et depuis, tu kiffes?
Mais complètement, c'est... En fait, je revis complètement. Au début, tout le monde m'a dit « Mais attends, mais t'es cadre sup, qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Enfin, t'as un poste, t'as un salaire. Mais en fait, mais tellement pas. Genre, mais tu vois, tu disais « Je me lève à 5h du matin. » Je fais tous les jours des journées où je me lève à 5h. Je bosse jusqu'à des 22h. Mais je kiffe ce que je fais. Genre, je prends vraiment plaisir. Et en fait, c'est un peu ce que tu disais. Des fois, j'ai même pas l'impression de travailler parce qu'en fait, je suis juste en train de développer un projet qui me tient à cœur.
Et donc justement, c'est un peu ce qu'on retrouve dans tes vidéos, dans les thématiques. Le sens du succès, les échecs, ouais, la peur de l'autre, le poids des mots, vivre sa vie.
Ouais, c'est souvent... C'est vrai que la thématique de l'échec et du succès, c'est quelque chose qui revient souvent. Après, est-ce que c'est parce que les gens se posent souvent ces questions ? Ou est-ce que c'est parce que c'est moi qui me les pose et du coup, dans les conversations que j'ai avec les gens, on en vient parler de ça. Ce qui est sûr, c'est que la définition qu'on peut avoir du succès et de l'échec, en plus d'avoir changé, elle est presque inversée. De plus en plus, je rencontre des gens qui sont fiers d'avoir échoué. Et même moi, mon échec dont je suis le plus fier.
C'est son master.
Ouais. Je suis grave content, tu vois, d'avoir...
Oh, elle est trop technique.
Elle est trop forte. Là, elle m'a fait un petit pont, j'ai pas vu le... le panneau, il est passé entre mes jambes. Waouh.
Elle t'a mis une roulette, ouais. Elle était tellement fluide.
Bam.
J'ai travaillé, hein.
Ouais, voilà. Super.
Bon, j'attends toujours de voir ce qu'elle me réserve parce que je suis pas encore serein. Tu vois, je fais le mariole quand elle parle de toi, mais.
Ah là là, c'est tellement fluide, exceptionnel, excellent. Ouais, c'est le master. Moi, je me suis engagé dans. En fait, au lycée, genre. Là, je me mets à frein parce que je me demande si ça remonte pas à plus tôt. Je pense que ça remonte à plus tôt, tu vois. En tout cas, au lycée, je me suis retrouvé, comme beaucoup, je pense, de lycéens, à étudier juste pour avoir le bac. Mais c'est pas une raison en soi, tu vois, genre
the goal.
Ouais, bon, ouais.
Tu sais, après il y a quoi, tu vois, dans la vie, tu vois. Et en fait, je me suis retrouvé avec un prof d'économie sociale à ES qui m'a fait confiance. il a vu quelque chose que moi, j'avais pas vu, que mes parents n'avaient pas vu. Et il m'a proposé de préparer le concours de Sciences Po. Et donc, de la seconde à la terminale, je me suis dit, ma vie après le bac, ça va être Sciences Po. Sauf que je ne l'ai pas eu. Donc je me suis dit, ma vie, c'est quoi, tu vois, je me retrouve au lendemain du bac, dans une situation qui ne correspondait pas à ce sur quoi je m'étais projeté. Donc, j'ai dû m'adapter, j'ai dû trouver mon pourquoi, en fait. Trouver un nouveau pourquoi. Pourquoi est-ce que j'étudie ? Je me suis retrouvé à partir en classe préparatoire. Alors, c'est au concours une classe préparatoire au concours de l'École normale supérieure de Cachan. Je ne savais pas à quoi ça servait à l'époque.
T'inquiète, on a fait la même chose. J'ai travaillé pour ça pour 3 ans. Okay. On me disait normal sup. Et moi, je disais à mes profs non. Enfin, pourquoi t'es en prépa ? Parce que c'est bien, on apprend plein de trucs. Mais tu aimes souffrir ? J'aime apprendre.
À mes heures perdues.
Quand j'ai le temps. Tu vois, voilà.
je souffre quand j'ai un peu de temps de dispo.
Ouais, sauf que la prépa, c'est toute ta vie, en fait. C'est tout ton temps.
Bah ça, je voyais les gens consacrer leur vie à ça. Et moi, je me disais, mais c'est pas ça, la vie. C'est pas, moi, je veux pas... Enfin, je me reconnaissais pas dans eux. Donc, moi, je vois un groupe de personnes qui se reconnaît entre eux réciproquement, parce qu'ils travaillent ensemble, ils vont des heures à la bibliothèque. Moi, quand je vais à la bibliothèque, je dors. Donc, il y a un problème. Je suis pas à ma place. Je devrais être dans un lit. C'est ça le raisonnement. Et donc, je commence à me poser des questions. Et très rapidement, je commence à bifurquer sur d'autres choses. L'année où je devais le plus travailler, j'avais 2 fois Kung Fu dans la semaine. J'ai intégré l'armée de réserve à Toulouse. Je me retrouve à être engagé, impliqué dans des actions associatives au profit des sans domicile fixe. Et je commence à faire plein de choses que j'aime. Et des trucs, mais perchés. Genre, j'ai intégré une association, c'était Global China Connection. On aidait les étudiants chinois à intégrer les campus de droit. J'ai jamais refait ça, tu vois. Enfin, moi, je suis fan de Chine et c'est le seul moment où j'ai vécu cette passion ce rapport passionnel avec la Chine. Et donc, je me retrouve dans des études de droit qui ne me correspondent pas pendant 5 ans. Un jour, je décide de changer, je pars dans l'enseignement. Et pendant une année, j'avais préparé le concours de recrutement des professeurs des écoles. Je voulais enseigner dans les écoles primaires et maternelles. Et pendant une année, je me retrouve à préparer le concours. Et c'est la même chose. Je ne me reconnais pas dans mes pairs. Je ne me reconnais pas dans les gens qui préparent le concours. Je me dis, mais je suis pas comme ces gens-là. Moi, je ne me vois pas transmettre des connaissances, un savoir, parce que je me sentais pas la légitimité pour. Et cette légitimité, elle arrivait, cette illégitimité était tellement forte que le jour où je devais passer le concours, j'ai eu un blocage et je suis pas rentré dans la salle d'examen. Mais devant la porte, je suis arrivé. Et mon corps, il m'a dit « stop ». Et je me suis retrouvé à parler tout seul. Je dis « mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne veux pas faire ça. On a préparé ça depuis une année et tout ». Et c'est comme s'il y avait une petite voix qui me disait « viens, on va s'asseoir dans le parc ». Et moi, je l'écoute. Je dis « ok, vas-y, je te fais confiance ». Et « bonjour, nous sommes des gens bizarres je vais m'asseoir.
Je suis tout seul, mais nous sommes venus en famille.
Moi, je suis en train de dire qu'on a ramené des psychologues. En fait, on a ramené des patients.
Des psychopathes.
Fais ton travail, Sam. Fais ton travail.
On se voit en aparté juste après.
Pourquoi tu l'as laissé prendre la parole ? Cette personne est bizarre.
Non, mais ce qu'il dit aussi, c'est aussi ça, tu vois, quand je te parlais de se reconnecter à soi et de comprendre en fait qui on est. C'est aussi ça, tu vois, c'est que quelque part, pendant une année ou peut-être même plus, tu t'es bluffé quelque part. Dans le sens où tu t'es engagé dans des voies, mais c'était pas ta voie, c'était pas ton truc. C'est juste qu'à ce moment-là, t'as vu de la lumière et tu te dis, bah tiens, vas-y, je vais rentrer là. Mais tu sais, au bout d'un moment, il y a un truc en toi qui t'a dit, mais en fait, non, c'est, genre, tu vas pas là-bas. Bon, déjà, t'y es pas allé, enfin, t'es allé plutôt dans le parc. Ouais. Mais blague mise à part, c'est vraiment quelque part ton subconscient, ton corps qui t'a dit, ouais, non, en fait, non, t'arrêtes tes conneries, c'est pas ça ton truc. On va te remettre un peu sur les...
Et ça, je trouve que c'est impressionnant à expérimenter. En fait, cette confrontation, ce dialogue entre la raison, le cœur et le corps, en fait. tu te retrouves dans une situation où ta raison te pousse à t'engager dans des études parce que ta famille t'y a poussé, parce que la société t'y a poussé, parce que toute la logique t'a poussé à faire ça. Ton cœur te dit de faire autre chose parce qu'il n'est pas attiré par ça. Et tu arrives à un point où cette contradiction elle est telle que ton corps physiquement va te bloquer et t'orienter vers quelque chose d'autre. C'est vrai que la marche que tu as mentionnée en Malaisie, les 69 km, il me semble, d'après Google Maps, ou je sais plus, 67 ou 69.
Moi, j'ai trouvé 62, mais...
62, pardon.
Mais ouais. Même, dans tous les cas, c'est quand même
60,
un jour.
Quelque chose.
C'est quand même énorme.
C'était énorme, dans tous les sens du terme. Une très belle expérience. Et c'est... Pour moi, ça a été un moyen physique de trouver une conciliation justement entre la raison et le cœur. Puisque quand je suis revenu de cette marche, j'ai mis quand même un an avant de le comprendre, j'avais mon mémoire à rendre de Master 2, j'avais mon mémoire. Et en fait, une semaine, deux semaines, je ne sais plus, avant de rendre le mémoire, j'ai tout posé, mon ordinateur, j'ai rangé les feuilles. Et j'envoie un mail à mon prof et je lui dis bonjour, merci. Je voulais juste vous dire, je voulais vous dire merci parce qu'en fait, grâce à vous, après toutes les années d'études que j'ai pu faire, j'ai trouvé ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. Et ce que je veux faire, ça n'est pas enseigner, c'est faire des vidéos. Donc merci parce que c'est vous, à travers votre bienveillance, à travers vos encouragements, à travers tout ce que vous nous avez transmis pendant cette année, qui m'avait amené en fait à comprendre le sens réel des études, parce que les gens, la plupart des gens s'engagent dans des études pour obtenir un diplôme. Sauf que obtenir un diplôme, c'est pas ça qui te fait réussir ta vie. C'est ça qui te fait accéder à un emploi. Par contre, peut-être que cet emploi, et même très certainement, ne correspondra pas à l'image que tu t'es fait de cet emploi.
Burnout.
Ouais, burnout, mais c'est vrai.
Burnout,
ouais.
Toutes ces choses-là, parce que les gens Ils se conditionnent en fait à penser que à l'issue de leurs études, en obtenant un diplôme,
ouais,
ils vont atteindre
heureux,
le bonheur.
En fait. Ouais, exactement. C'est ça. Alors que Chips. Que non. Ouais. C'est ouf quoi.
À tes souhaits.
Mais c'est une forme d'enseignement tes vidéos. Donc en fait, finalement, t'enseignes, mais t'enseignes d'une façon qui est en fait complètement différente.
Je contourne le fait que j'estime que je ne suis pas légitime à transmettre en fait, parce que c'est pas moi qui vais parler. Par contre, dans ce que dit la personne, même si moi, je ne l'ai pas pensé, parce qu'elle m'apporte quelque chose de nouveau, au final, je me reconnais dans ce qu'elle dit. Mais comme moi, j'estime que je n'ai pas à le dire, ça permet à tout le monde... Parce qu'on a tous une part de cette vérité globale. T'sais, on est la société,
oui.
En fait.
Ouais, ouais.
C'est notre somme, la somme de nos individualités qui fait... toute la profondeur et la nature de notre société. Donc moi, je vais chercher ça, des individualités pour créer pour recomposer cette vérité collective.
Et c'est aussi ce que tu fais avec ton programme quand tu les accompagnes, parce que c'est une forme d'enseignement aussi.
Complètement. Et j'ai pris un pari en fait un peu fou quand j'ai eu cette idée. Bon, j'étais encore, j'avais pas encore complètement lancé le projet, mais en fait, j'ai eu cette idée. Je me suis dit bon, tu sais, préparation mentale. Des fois, on parle de psychologie, etc. Tu sais, c'est des trucs qui sont un peu flous, tu vois.
Développement personnel.
Ou pas.
C'est...
Alors, en fait, c'est quelque chose qui sont flous et souvent mal compris. Et du coup, tu vois, des mots comme ça, c'est tellement utilisé quelque part qu'ils n'ont plus aucun sens. Et j'ai pris un pari un peu fou, c'est de me dire que si je maîtrise vraiment ce dont je parle, je dois être capable non seulement de l'expliquer à n'importe qui, mais en plus de ça, d'avoir des résultats sur n'importe qui. Tu vois, là, c'est mon côté commercial qui parle de résultats.
Il y a des restes de la vie d'avant.
Ouais, des formations.
Je sais pas ce que vous proposez, mais j'achète.
Et en fait, je suis retourné dans mon ancien lycée, qui était donc à l'époque l'un des pires lycées généraux de France. Et en fait, j'ai juste présenté mon projet. J'ai dit, écoutez, voilà, j'ai ça. Et ceux que ça intéresse, venez, je vous coach. Et je me suis retrouvé comme ça avec un groupe de lycéens qui savaient même pas ce dont j'allais leur parler. Mais à un moment... J'ai réussi à les capter et ils ont dit vas-y, peut-être que ce mec-là, il a quelque chose à nous apporter. Et franchement, c'était une aventure de ouf. C'était vraiment une aventure de ouf. On a fait ça pendant 10 semaines. On les a coachés, on s'est éclatés, on a vu les gens se développer, des gens changer, etc. Et à l'arrivée, le lycée, il a eu 62% de réussite au bac. Et ceux qui ont suivi la formation, ils ont eu 90% de réussite au bac.
Ah ouais, wow.
Et je suis pas prof de maths et je suis pas prof d'anglais. Et encore moins de français. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, en fait, si tu arrives à avoir cet impact-là, c'est que quelque part, tu maîtrises. Parce qu'en fait, pour moi, maîtriser réellement un sujet, c'est pas l'expliquer à des experts. C'est être capable de le vulgariser assez pour que n'importe qui puisse le comprendre. Et après, à ce moment-là, en fonction de ton public, tu as juste à redresser ton curseur. Et il y a une jeune qui est venue me voir et qui m'a dit, tu sais, je voyais aucune porte de sortie dans ma vie. Et depuis que j'ai suivi en fait ta formation, je vois des portes de sortie partout. Et ça a vachement résonné en moi. Ça a vachement résonné et je me suis rendu compte que cette simple phrase, parce qu'il n'y avait pas d'argent en jeu, tu vois. Quand ils sont venus, c'était gratuit. Ils sont venus, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre, on leur a donné ce qu'on avait à leur donner. Mais ça avait beaucoup plus de sens pour moi que les millions d'euros que j'étais en train de gérer en entreprise. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est... Tu vois, ça a confirmé l'idée que, en fait, ouais, non, c'est... Ce que j'étais en train de faire en entreprise, c'était pas ça, en fait, ce qui était fait pour moi. C'était plus dans ce projet-là. Et donc là, je suis rentré en bataille. Et puis, quand j'ai pu, justement, vraiment avoir ce truc de me concentrer pleinement sur le projet, j'ai dit, allez, j'y vais à fond.
Et ensuite, tu t'es mis à... Enfin, il y a une formule que j'ai bien aimée, c'est quand tu as dit... Un boxeur sur le ring, il est seul. Et on oublie en fait qu'il y a toute une équipe derrière. Donc en fait, toi, t'es toute l'équipe qui est derrière, quoi.
Bah, c'est un peu ça, si tu veux. Les gens, ils voient la boxe comme un combat. Moi, j'ai toujours vu un combat de boxe comme une partie d'échecs. J'ai une approche très psychologique.
D'ailleurs, je crois que c'était ce que je t'avais dit la première fois que je t'ai rencontré. Mais tu joues aux échecs ?
Ouais.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'il a les têtes de quelqu'un qui joue aux échecs ?
Ouais. Je sais pas, peut-être.
Bah, en tout cas, j'aurais pas cru qu'il était perturbateur quand tu étais plus jeune, quoi. Il fait un peu premier de la classe.
Ça, c'est le bluff. C'est que le, c'est que le camouflage est efficace.
Non, c'est vrai, effectivement, il n'a pas une tête de perturbateur. Après, quelle est la tête du perturbateur ?
Ouais, bah.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Je t'en montrerai des photos. Non, pour la petite histoire, ma propre femme, je l'ai connue quand j'étais au lycée. Et elle-même, en fait, m'a avoué, elle m'a dit « J'aurais jamais imaginé me marier avec toi. » Parce qu'elle m'a connu dans une période un peu ouais. folle. Je lui dis, mais si je devais être franc avec toi, moi-même, je ne me serais pas marié avec moi.
Non, mais voilà. Il y a eu un glow-up.
Non, mais voilà, c'est pour te dire que quelque part, rien n'est figé.
Il y a toujours de l'espoir, les gens.
Mais en fait, il y a toujours de l'espoir pourvu qu'on en ait l'envie. En fait, tout part de l'envie, tout part de la motivation. On en manque beaucoup, mais en fait, tout part de ça. Je suis passé, quand je te disais que j'avais un parcours un peu atypique, enfin, j'étais en terminale et j'avais 6 de moyenne, 149 demi-journées d'absence. C'est des chiffres.
Ah ouais, 149.
Mais je suis arrivé à la fac, j'étais major de promo.
Oh, ok, d'accord. Ouais.
Tu vois, je suis passé de fin de terminale, cancre de ouf, 6 de moyenne, à j'arrive à la fac, major de promo. Tu vois, il s'est passé 2 mois d'été entre temps.
Ouais.
Tu vois, et c'est juste qu'en fait, à un moment.
À vous, il y a eu des coups de ceinture ou.
Bah en fait non.
Non.
Non, tu vois, si tu veux bon, je vais raconter un peu ma vie, mais pour le coup, mon frère, ma sœur, ils étaient plutôt bons élèves. Bon, il y avait une place à prendre, j'ai pris celle du mauvais.
Il y a toujours un petit canard.
Toujours. Toujours, mais en fait, si tu veux, tu parlais du bac comme but ultime, c'est vrai que dès que j'ai eu le bac, on m'a un peu lâché la grappe chez moi. Et j'ai eu une discussion avec moi-même, donc tu vois, t'es pas le seul fou.
Ah, bonjour.
Et je me suis dit quelque part toute ta vie, t'as foutu la merde. Bah pour une fois dans ta vie, travaille. Pas parce qu'il faut travailler,
ouais, mais juste, pour toi.
Juste pour toi, en fait, pour voir jusqu'où tu peux aller. Et en fait, en faisant ça, je suis passé d'un extrême à un autre, et je suis passé en fait, ouais, de 6 de moyenne à major de promo. À ce moment-là, c'est pas le fait d'être major de promo qui m'a fait kiffer, c'est plus le fait de me dire, bah, tu vois, t'en es capable, en fait. Et de là, à chaque fois, je repoussais les limites, jusqu'au bout d'un moment, jusqu'à aujourd'hui, on me dit, mais t'as un barjo, elle est où ta limite ? Je dis, mais moi-même, je sais pas, en fait, elle est où ma limite.
Donc, il n'y a aucune limite à cette table.
Bonjour. Non, ok.
Donc voilà, quelque part, c'est vraiment ce truc de vouloir constamment repousser, parce que c'est aussi ce qui m'a permis d'arriver jusque-là.
Ouais.
Donc, voilà.
Et de forger un mental de titan et de proposer un programme mental de titan.
C'est ça.
Mais du coup, pas le physique qui va avec. Tu proposes pas ça
Alors, c'est pas le but, si tu veux. Je pars du principe que mon programme, il doit pas être spécifique aux personnes qui aiment le sport.
Ouais. Faut pas forcément être sportif.
Pas du tout. Pas du tout. C'est juste un programme en fait qui est dédié à toute personne qui a envie de passer à un autre niveau dans sa vie. C'est vraiment ça le fondement. C'est si aujourd'hui t'es là, eh ben viens, demain on est là. C'est un peu ça le fond. Et moi, je tire quelque part mon expertise de mon expérience dans le sport, parce que j'ai accompagné un double champion du monde, plusieurs champions de France, et quelque part dans ce côté un peu extrême de la boxe, parce qu'au final, c'est très particulier. Pendant 3 minutes, on se tape dessus. Et le mec, il revient voir son coach. Et le coach, il a une minute pour lui donner quelques conseils, tu vois. Donc, quand tu le réduis à ça, c'est très extrême.
Ouais.
Mais quelque part,
ça, c'est bizarre.
T'as une minute pour aller à l'essentiel.
Ouais.
T'as une minute pour aller à l'essentiel, pour lui dire les bons mots, le rassurer s'il a besoin d'être rassuré, le motiver s'il a besoin d'être motivé. Et quelque part, c'est du nectar, c'est du concentré. Et si t'as pas cette démarche empathique, psychologique, de vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de l'adversaire, ce qui se passe dans la tête de ton athlète, tu peux pas. Et en fait, si le mec il revient, toi t'es là, t'es sous pression, parce que crois-moi qu'au pied du ring on est comme ça, il y a une pression de ouf, bah, si tu sais pas quoi lui dire, c'est que quelque part tu le laisses tomber au plus haut niveau, tu vois. Et donc voilà, c'est vraiment ce truc de garder la tête froide, toujours analyser, comprendre les gens, ce qui se passe en face, ce que toi tu fais, quel impact ton action elle a sur l'autre, etc. Et c'est tout ça, en fait, qui m'a permis par la suite de m'intéresser beaucoup plus à la psychologie, à la compréhension du cerveau. Aujourd'hui, on parle de neurosciences, c'est un terme qui est peut-être un peu technique, mais c'est juste comprendre quel impact le cerveau il a sur nos actes et sur notre quotidien.
Ça aurait été un programme qui t'aurait parlé ?
Mmh.
Tu peux dire non, hein, t'inquiète, hein, c'est pas grave.
Ben... Si tu dis non, je t'attends à la sortie.
Du coup, vous allez vous battre pendant 3 minutes, voilà. Et moi, je fais le coach. Mais je coach qui ?
À toi de décider.
Merde.
On va se battre pour que tu saches. Mais dans ce cas, faut le... Bref. Ben, en fait, avant, je m'y serais pas intéressé à ce programme. Et aujourd'hui, c'est pas un truc qui me parle non plus, dans le sens où j'ai... Une chose que j'ai compris à travers le rejet que j'ai fait de l'université, parce que moi, le parcours est inverse, dans le sens où moi, je n'étais pas un élève perturbateur. Bonjour. Je n'étais pas un élève perturbateur, j'étais un élève, je pense, plutôt rêveur. Ouais. Et j'étais vraiment... on va dire, c'était hyper bizarre. Il y avait un côté extraverti parce que je pouvais rigoler à fond, être hyper sociable et tout ça. Mais de l'autre côté, j'étais en moi-même, avec toutes les questions que je pouvais me poser. Donc, j'étais rêveur et... élève moyen plus, et quand je suis arrivé à la fac, je suis passé de élève moyen plus qui avait un certain nombre de facilités à dernier. Genre, je crois que j'ai effacé cette information de ma mémoire, mais je pense que j'étais soit avant-dernier, soit dernier, quoi. Et vraiment, et c'était. J'ai compris, après 8 années d'études à l'université, qu'en fait, j'ai fait un rejet, non pas des études en soi, mais j'ai fait un rejet des cases, en fait. J'ai fait un rejet
du système, en fait.
Du système. C'est-à-dire que je...
Qui n'était pas adapté à un profil comme le tien.
Ouais. Moi, dès le... Ben, c'est pour ça que j'avais un petit doute quand j'ai commencé à parler du lycée. Moi, quand j'étais au collège et qu'on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire au lycée ?» L, ES ou S. Mais c'était l'angoisse, tu vois. Moi, je voulais faire art appliqué, je voulais faire audiovisuel, je voulais faire hôtellerie. Et je comprenais pas pourquoi on nous proposait but bizarre, salamèche ou carapuce, tu vois. Je comprenais pas. Je me dis, mais il y en a tellement d'autres, des Pokémon. Pourquoi est-ce que tu vas en prendre juste l'un de ces trois? Et donc, ouais, dans ça, je vais pas me reconnaître dans cette formation. Par contre, c'est des choses qui font écho à... Effectivement, à des témoignages que j'ai pu avoir, des échanges que j'ai pu avoir, et je comprends tout l'intérêt de cette démarche, dans le sens où Sam, ce qu'il propose, c'est une synthèse, en fait, de toutes ces choses-là, que si on ne va pas chercher en prenant le temps d'écouter les gens, en prenant le temps de parler avec eux, en prenant le temps de comprendre leurs échecs, ce par quoi ils ont dû traverser, ben, si on ne prend pas ce temps-là, oui, alors si je prenais pas ce temps-là, bah, peut-être que je me dirigerais vers une formation comme ça. Mais moi, j'ai choisi de prendre ce temps de découvrir.
Et d'être ton propre psy.
D'être mon propre psy.
Son propre psy ou son propre patient.
Franchement, à ce stade de l'émission, je sais plus là.
Je pense que...
Parce que depuis tout à l'heure, tu sais ce que je me demande, mais ils sont combien en toi?
En moi?
Ouais.
Enfin, écoute, je les comptabilise encore, tu vois.
C'est un coup où tous les matins ils se bagarrent. Il y en a un, il prend la manette.
Tu parles, mais toi aussi, Sam. Hein.
Non, moi, on est deux.
Ouais.
Deux? Ouais, on est deux.
Juste deux.
Et c'est qui les deux?
Il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. On est vraiment à deux extrêmes.
Et te colle.
Ouais, il me prend un sandwich, tu vois.
Est-ce qu'il y a, également leur coach avec ou... Parce que du coup, vous serez quatre.
Exactement. Non, ouais, je pense qu'on est vraiment deux. Deux avec... Parce qu'à chaque fois... Enfin, les gens, ils me prennent pour un barjot. Sûrement toi aussi. Peut-être toi. Mais toi, peut-être on est encore dans les mêmes cases. Mais si tu veux, c'est dès que j'aborde quelque chose, une situation, etc., je l'aborde toujours sous différents angles. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, j'essaye de prendre, selon moi, selon mes standards, la meilleure option, la meilleure solution. C'est parce qu'en fait, je ne réfléchis pas juste de la manière dont je réfléchis instinctivement. C'est que j'essaye, encore une fois, de sortir de cette boîte dans laquelle je suis et de voir les choses sous différents angles pour, en fait, toujours avoir cette vue un peu 360 sur une même situation.
Justement, là, moi, en l'écoutant parler, ça me permet de m'en rendre compte qu'on est quatre. La première, c'est la raison, la première personne, tu vois. La deuxième, c'est le cœur. La troisième, c'est l'esprit. La quatrième, c'est l'âme. Et c'est vraiment cette idée de prendre du recul et de se dire, ok, ça, c'est ma logique qui me pousse à prendre telle décision. C'est ma logique qui me pousse à partir pour arriver à l'heure alors que je suis en train de faire quelque chose que j'aime bien. C'est mon cœur qui me dit, je vais faire confiance à un inconnu. Je vais répondre à cette personne, n'est pas à cette personne. C'est mon cœur qui va me dire, maintenant, il faut que tu prennes ce choix. Parce qu'en plus, le choix, il n'y a pas de... On se pose la question, est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais choix? Il n'y a pas de mauvais choix.
Et, donc... et surtout que parfois, les choix que tu vas penser ne pas être les bons, ou en tout cas, tu ne vas pas te rediriger, finalement, quand tu reviens, c'était eux que tu aurais peut-être dû
tellement les meilleurs.
Faire. En... Ouais, c'est ça. Et te dire, mais en vrai, j'aurais dû le faire dès le départ. Mais finalement, c'est bien que ça se passe comme ça parce que t'es passé par l'échec, tu t'es mis un frein, mais tu t'es juste rendu compte que parfois, en lâchant juste un peu la pédale, en fait, t'as mille fois mieux et tu kiffes encore plus.
Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre, je pense, à écouter son cœur. L'esprit, lui, c'est celui qui va voyager. Moi, je sais qu'à 19h30, je dois être autre part. Bah, en fait, c'est mon esprit qui est déjà... ma raison, elle est là en train de se dire est-ce que ce que je dis c'est logique.
Ouais.
Mon cœur, il est en train d'apprécier ce moment passé avec vous. Mon esprit, il est en train de. Et à mon âme, là, c'est là où c'est plus compliqué. Parce que, je n'ai pas encore accès, tu vois. Je cherche encore les clés.
J'ai perdu. Il a plein de serrurier, il arrive. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais je suis également serrurier. Donc,
très bien, écoutez, bah, j'ai perdu les clés depuis 3 jours.
Si tu as besoin de rentrer.
Ah, c'est parti en cacahuète.
Un peu, je dis, c'était pas une tellement bonne idée, mais bon.
Non, voilà, mais je trouve que c'est un bon duo.
Et toi, tu as combien de personnalités, toi?
Moi, j'en ai deux, mais je rejoins ton idée de quatre, même si je pense que je mettrais l'âme avec le cœur et l'esprit avec. C'était quoi la
raison? La raison.
Avec la raison. Donc, pour le coup, en fait, je rejoins ton idée, mais tu vois, je combine. Mais on est deux. C'est. J'ai souvent dit qu'il y a une Amina officielle, donc voilà, c'est toujours l'Amina très bien, tout est carré. Puis il y a l'Amina non officielle,
9 que... de I.
L'AK, la... voilà, si tu veux,
l'AK. L'Amina 9 de I.
L'AK où, à mon avis, c'est plus peut-être même l'âme, tu vois, qui parle et qui, pour le coup, l'âme, je rassemblerais même ça avec le cœur. Parce que le côté passionné, le côté ouais, on fonce et on s'en fout, et puis ça marche tant mieux, et ça marche pas tant pis, quoi. Mais ouais, la prise de risque, quoi.
Ouais. Je rajouterais même une cinquième, ouais, du coup, pour le coup, en t'écoutant parler, ça me fait penser à ça, c'est le corps, en fait.
Oui, c'est vrai.
Le corps.
Ah ouais.
Parce que le corps nous envoie des signaux. Donc,
parce que oui, il va souvent t'amener à un endroit, toi, tu sais pas. Tu devais aller à un point A. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, je dois aller là. Et parfois, ton corps, eh bien, il va te dire, il y a un truc que tu vas voir. Il va t'emmener. Donc moi, maintenant, je l'écoute. Tu vois, j'y vais. Et ça fait posséder comme ça, mais Mais je te jure que c'est le cas. Genre, il t'emmène.
S'il y a un prêtre qui nous écoute.
Mais je kiffe. Et ça, ça m'arrive souvent en vacances où je vais me dire, bon, aujourd'hui, je fais quoi? Je sors. Vas-y, je vais peut-être faire ça. Et tu passes par un endroit. Ta tête, tu vraiment, tu vas pas. Puis ton corps, il t'emmène. Ouais. Tu dis, mais c'est génial. Mais
après, sans aller jusque-là, tu vois, c'est l'idée selon laquelle.
Je suis trop folle pour lui, là.
Non. Calme-toi, bonjour. Non, c'est, tu sais, c'est quand on tombe malade. Des fois, t'es là, t'es à fond, tu mets tout ton cœur, et d'un coup, en fait, ton corps, il t'arrête. Moi, personnellement, ça m'est pas arrivé, encore, un burn-out ou quelque chose comme ça. Mais
j'espère pas.
J'espère pas pour personne. Mais ça arrive que ton corps te mette une limite physique et qu'il te dise stop. Et ça, c'est important, du coup, de, par conséquent, je pense, de l'écouter, de s'écouter. Il n'a pas forcément il a pas les mêmes voix. Mais tu sais, tu vas avoir mal, tu stresses, tu vas avoir mal.
C'est,
je sais pas,
oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu vas sentir quelque chose. Ouais, c'est vrai.
Moi, j'ai une. Je comprends ce que tu dis. J'ai une vision qui est un peu différente. Si je reprendrais ton mode de fonctionnement, moi, j'aurais dit dans ce cas qu'on est trois, quelque part. C'est le cerveau, le cœur, les tripes. C'est ça, en fait, qui nous drive au quotidien. Et quand tu vas avoir. Une décision, quelque chose qui t'arrive, etc. Soit tu vas l'aborder avec ton cerveau, donc dans ce cas-là, tu vas être plutôt raisonnable, entre guillemets. Soit tu vas plutôt l'aborder avec le cœur et tu dis, bon, bah en fait, j'aime pas, j'ai pas envie. Ou soit tu vas l'aborder avec les tripes, donc t'en as qui vont te parler d'instinct. Tu vois, c'est, je sens que... Tu vois, c'est... Mais... après, ce que tu dis, c'est aussi vrai. Tu vois, les points de douleur, les rappels, etc. Mais ça, c'est des choses, selon moi, qui viennent du cerveau, en fait. Tu vois, c'est le cerveau, tu peux bluffer ton corps, tu peux bluffer ce que tu veux, mais il y a des moments, en fait, où le cerveau, il t'envoie des signaux d'alerte. Ça peut être sur la cuisse, ça peut être sur le ventre, ça peut être là, juste pour te dire, mec, t'es hors piste, là, en fait. Et je l'ai vécu l'année dernière, tu vois, et en fait, des fois, tu te bluffes comme ça, tu te bluffes, et au bout d'un moment, bah, ton corps, il te dit, bon... Enfin, le cerveau te dit à ton corps, écoute, là, tu l'arrêtes, on le range sur le côté.
Ouais.
Arbitre, changement de joueur, et en fait là tu rebootes et ça te permet de te remettre en question pour mieux repartir.
Ouais, je le distingue quand même, je comprends, je le distingue quand même de la logique. Moi je sais que j'ai pas ça m'est pas encore arrivé, mais je sais que des fois je vais avoir sommeil, tu vois, je vais vouloir dormir. Et en fait là il y a pas de. C'est pas genre en mode quelle est la bonne décision, est-ce que je dois dormir pendant tant d'heures, c'est non, en fait, dors. Il y a pas de réflexion possible. Y a pas, moi je distingue vraiment cette réflexion de ce signal nerveux, tu vois, comme quoi tes muscles te disent t'as besoin de dormir. Donc ça, mais après je pense qu'il y a autant d'interprétations qu'il y a de fous sur terre. Bonjour.
Et dans 10 ans vous voyez où, si vous deviez vous projeter?
Dans 10 ans, moi j'en ai 28, donc tu peux répondre parce que
la question de l'angoisse.
Tu vois comment il m'a refourgué la patate chaude.
Parce que déjà dans un mois là j'ai du mal, donc
On a parlé de programmation, voilà, on anticipe s'il vous plaît.
Non mais c'est en gros idéalement
non,
quoi.
Ouais non, idéalement. Idéalement, dans 10 ans, j'aimerais.
J'ai fait bugger tout le monde.
Non. En fait, je cherche le meilleur moyen d'exprimer ce que je ressens. En fait, pour moi, Mental de Titan, c'est un programme qui a vocation à grandir, à vraiment grandir. Et si tu me demandes d'ici 10 ans, je te dirais ouais, clairement, l'idée pour moi, ça serait d'avoir pu atteindre au moins 1 million de personnes.
Eh ben, on te le souhaite. Merci. Ça serait génial. Et il y a pas de raison. Hein.
Complètement.
Najib, toujours pas.
Essaye de faire mieux que ça. Non, je rigole.
3 millions, je suis j'en chéri à 3 millions.
J'achète.
Non, sérieusement, je pense que dans 10 ans, déjà le rythme aujourd'hui auquel le rythme que je me soumets de rencontrer les gens, il est intense. Tu vois, un jour, une rencontre, une vidéo. Donc ça veut dire 3-4 rencontres par jour. Mentalement et physiquement, ça implique vraiment. Moi, je me suis rendu compte, je savais pas que j'étais. Ça impliquait d'avoir un mental de titan. Donc, ça impliquait d'avoir vraiment une discipline sportive. C'est le truc, la démarche, elle est athlétique.
Ouais.
Mais j'en ai pas le corps. Et ça m'énerve. Non, je suis. Je le mec, il lâche tout sur.
C'est sa thérapie.
Ouais, complètement.
La prochaine fois, je fais des émissions avec des divans. Ouais. Je pense que ça pourrait marcher
là,
aussi.
Arrive,
allonge-nous.
J'ai pêché mon père.
Non, ça, c'est ailleurs, ça.
C'est pas les mêmes thérapies. Et ouais, donc c'est vachement physique. Donc dans 10 ans, je me vois faire ça au-delà de la vidéo. Donc pas juste aujourd'hui sur Facebook. Peut-être une émission, plus de passages du virtuel au réel. Peut-être reproduire sur scène ce qui se passe à la caméra avec les gens. Tu vois, inviter les gens à... Alors, moi, continuer d'échanger avec eux, mais inviter également les gens à échanger entre eux et faire réellement comprendre que placer l'écoute au cœur de la relation... Mais une vraie écoute, une écoute active, ça peut te changer en 3 minutes. En 3 minutes, ça peut te changer toute ta vie. Et moi, l'exemple que je prends, je m'en suis souvenu il y a 2 mois, c'était pendant mes vacances d'été quand je vloguais. La première année où je vloguais mes vacances d'été en Algérie. J'ai rencontré un monsieur qui était vraiment fou pour le coup. Donc c'était à la campagne, je gardais des moutons et il y avait un monsieur fou qui sortait d'un asile psychiatrique très certainement, qui traînait par là, il dormait sous un tunnel et tout ça. Et on échangeait avec lui depuis, on échangeait ensemble depuis une semaine voire 2 semaines. Et il me dit, je vais te raconter une blague. Je dis d'accord. Et il me dit, je suis un clou et tu es un clou. Je reste à regarder comme ça et je cherche ce qui est drôle. Je cherche à savoir ce qui est drôle, tu vois. Et j'ai dit, mais quoi ? Il me dit, je suis un clou et tu es un clou. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça ? Et il me dit, je te le dis pour que tu t'en souviennes. Et en fait, genre pendant 10 ans, je ne m'en suis pas souvenu. Et il y a 3 mois, quand je m'en suis rappelé... Je me suis dit, mais pourquoi j'étais en train de me brosser les dents quand je me suis rappelé. Je me suis dit, mais pourquoi je me rappelle de ça? C'est une blague.
Ouais.
Et en fait, quand je me suis dit, c'est une blague, je me suis dit, mais le mec, il a réussi, tu vois, le message qu'il a réussi à transmettre, il a fait en 3 minutes. Il m'a transmis quelque chose qui, aujourd'hui, se retrouve au cœur de ma démarche de rencontre avec l'humain. C'est cette idée selon laquelle, quand quelqu'un te dit quelque chose, c'est à toi de choisir si ça va t'impacter à vie ou si tu vas le jeter à la poubelle.
C'est bien dit, c'est beau. Ouais, je suis entièrement d'accord. Franchement, on pourrait rester là toute la soirée et tout. Merci beaucoup, Najib. Merci Sam.
Merci à toi de nous recevoir.
Bah, merci, moi, ça a été un grand plaisir. Bah, on a pu faire les fous. Je pense qu'ils vont bien rire, les auditeurs et tout. Et du coup, avant de finir, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux?
Alors, moi, c'est Human, comme humain en anglais, Nadj, N-A-D-J, sur Facebook principalement et Instagram.
Et toi, Sam?
Alors, Mental de Titan, que ça soit sur Facebook ou sur Instagram, ou si vous voulez le @, c'est @sam_mdt. Et voilà, principalement sur Instagram, et là, on s'ouvre un peu à Facebook.
Super, merci beaucoup. Et vous pouvez suivre les aventures de Ça va parler sur Instagram et Facebook. Et merci beaucoup aussi à Catherine, qui en plus s'en va vers de meilleures aventures. Oui, vers d'autres aventures, mais...
Elles sont certainement meilleures, on vous le souhaite.
Voilà, mais je voulais faire un énorme merci à Catherine, qui m'a fait confiance il y a 5 ans, et qui depuis est un peu comme ma deuxième maman, et que j'aime beaucoup, et du coup qui va énormément me manquer. Voilà.
Bravo, bon courage pour cette nouvelle aventure. Et puis c'est un plaisir d'avoir assisté à la DR de Catherine.
Ouais.
À la DR des DR de Catherine.
Vous aurez connu Catherine.
On aura connu Catherine. Et c'est un plaisir d'ailleurs de l'avoir connue.
Merci.
Ça va parler, ça va parler, ça va parler.